Vous l'attendiez tous, et surtout moi, c'est enfin le dernier épisode de l'année.
Quel bâtard.
Et on ne revient pas l'année prochaine, voilà, on voulait vous faire cette annonce en bonne et due forme. C'est le dernier épisode de Speakeasy, on espère que cette aventure vous a plu.
Nous nous séparons tous. C'est vrai.
Pour retrouver chacun nos propres chemins. Donc c'était une belle aventure quand même, Speakeasy, Manuel.
C'est pas mal. C'est le dernier épisode de 2023, effectivement.
C'est pas ce qu'on a dit.
Bah, dans, tu regarderas ton agenda 2024.
Bonsoir.
Non.
Si, si.
Bon, moi, en tout cas, je n'étais pas prévenu, mais ça, c'est pas très grave, je suis habitué.
Prévenu de quoi?
Que c'était le dernier épisode.
Le tout dernier avis?
Le tout dernier avis.
Eh ben, on te l'annonce, écoute. Félicitations, Romain.
Merci beaucoup.
Ta lettre de démission est ici.
On sera bien là l'année prochaine, vous n'en faites pas.
Oh, personne ne s'en fait. Hein.
Si, il y en a, il y en a.
Personne ne s'en fait.
Oui, si.
Je suis sûr qu'on a reçu, le temps qu'on dise ça, je suis sûr qu'on a reçu aucun tweet. Hein. Il n'y a pas de, de hashtag.
On n'est pas en live.
Rendez-les-nous. Ah, on n'est pas en live.
Bah, en oui. Attendant, c'est en live. On m'a demandé d'organiser une FAQ.
Alors, qui t'a demandé ça?
Bah, les abonnés de Speakeasy. Ah, ils sont venus sur mon Twitch.
Ils nous demandent des trucs maintenant, ouais. Les gens.
Et ils m'ont
ils
dit.
Payent pour ça?
Non.
Alors, en fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
Oui, bah, évidemment,
comme,
ça, comme, à fois, comme à chaque fois que Romain raconte un truc, on sait que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
Ça, c'est vrai.
Je dis en live, ah, tiens, j'ai un podcast, Speakeasy. Vous avez des idées de sujets?
Ah, c'est son podcast.
Apparemment. Voilà.
C'est devenu son podcast.
Non, mais j'ai un enregistrement, quoi.
Non, on est guest.
Vous me faites chier.
Non, mais heureusement qu'il est là. Hein.
Voilà. Et bah là, du coup, j'ai pas eu à bosser. Parce que bah, les viewers sur Twitch ont bossé à ma place et m'ont dit, bah, organise une foire à questions. Après, je suis allé dire à Manuel. Je peux organiser une foire à questions? Je dis oui. Attends, il faut que je fasse valider à Léo. Et là, il m'a dit, oh là là, surtout pas, je gère le planning de Léo, ne lui demande rien en ce moment. Et donc, j'ai publié.
Ah, parce qu'on allait me demander un truc en plus de ça.
En plus.
En plus.
Tu vois ce que je t'ai évité, Léo?
Ouais, merci beaucoup, parce que moi, je te les invente, les questions, il n'y a aucun problème. Hein.
Donc, j'ai retenu pas mal de questions qu'on nous a posées et je vais simplement les citer pour que ça donne à la fin une discussion entre nous. Je veux pas le truc chiant dans cette FAQ de « Alors, Martine, elle a dit que… » Ok.
Ok.
Ça vous va?
Très bien.
De toute façon, si c'est pas ça, ben, y a pas d'autre chose. Donc,
très bien. J'ai hâte de voir la pertinence des questions et surtout, j'ai hâte de voir la réaction de Manuel aux questions. Moi, c'est mon truc préféré dans les FAQ, c'est de voir Manuel se confronter au monde extérieur. Parce qu'il faut savoir que ça fait quand même à peu près un an et demi qu'il n'est pas sorti des bureaux, qu'il n'a pas vu la lumière du jour. On lui met une lumière artificielle dans son bureau.
Mais il y a des résultats.
Mais il en est très content.
Bon, on termine l'année, on a tous travaillé sur différents objectifs. La première question qu'on nous pose, est-ce qu'on est fier de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous.
Oh, voilà. Incroyable. J'aime bien cette... Non, mais...
T'es fier de toi, Manuel?
Non. Attends, on prend la question différemment. Est-ce qu'en fin d'année, déjà, vous faites un bilan de l'année? Est-ce que vous ressortez des objectifs que vous vous étiez fixés dans l'année? Parce que je sais qu'ici, il n'y en a aucun de nous qui dit « Ah, le 1er janvier, j'ai des résolutions, on n'en a rien à foutre, on en prend toute l'année. » Mais est-ce que vous faites un point, déjà, avec vous-même?
Non. En tout cas, pas sur le plan professionnel. Parce que j'estime que j'en ai pas besoin dans la mesure où je fais un métier dans lequel j'ai des résultats directs. Je sors une vidéo, je sais si elle marche ou si elle marche pas. Donc je fais un point à ce moment-là en fait, qui va me servir pour la prochaine. Donc j'ai pas besoin de faire un bilan à la fin de l'année. Je sais dans tous les cas que Manuel m'a très bien vendu, donc ça, je suis richissime, c'est une dinguerie. C'est pas vrai, je préfère le dire aux gens quand même. Enfin si, tu me vends très bien, mais bon.
Et il y a des trucs que t'as pas fait.
Tu gardes tout l'argent, c'est ça qui est embêtant.
Il y a des trucs que t'as pas fait et tu te dis, bon, ça par contre, ça me fait chier de pas avoir pris le temps de le faire et l'année prochaine, tu vois.
Non, j'ai fait trop de trucs cette année.
Ouais.
Je vais pas me dire qu'il y a des trucs que j'ai pas fait. Non, je fais.
Si, on a fait un point de fin d'année et tu m'as dit, faut faire moins de choses.
Ah, vous faites un point de fin d'année.
Enfin, on a fait un point de fin d'année.
Non, mais c'est
de janvier à décembre, on a fait un point.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait. C'est...
Parce que Léo, en ce moment, on parle de 2025 pour Léo.
Oui, c'est ça. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt, moi, personnellement, de faire un point à la fin de l'année. J'ai l'impression de le faire un petit peu sur toute la durée.
Tu es un grand pointillé.
Tous les jours, en fait. Je fais un point sur moi-même. Ça me prend à peu près 3-4 heures par jour.
Tu es peut-être un rond-point.
Oui, Manuel. Tu vois, par exemple, est-ce qu'après cette vanne, t'es fier de toi, Manuel?
Non.
Ok, et en général, dans la vie?
Non.
Ok, bon, bah comme ça, c'est réglé.
Mais toi, avec Influx, c'est quand même un business sur du beaucoup plus long terme. Comment est-ce que tu analyses justement les décisions que tu prends dans l'année et à quel moment tu te dis, bon, bah, tiens, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que la fin de l'année t'aide, même avec tes équipes?
Moi, je fonctionne au quarter, en fait. Donc, okay. Bah, la fin de l'année, c'est un trimestre comme un autre, en fait. Mmh. Donc, après, ça dépend comment est foutu ta fiscal year, etc., si tu closes ton année en décembre ou pas. En fait, ce que j'aime pas dans la question, c'est le côté est-ce que tu es fier de toi. Il y a un côté satisfait site qui me va pas du tout, en fait. Parce que je ne suis jamais satisfait. Et le jour où je le suis, je pense qu'il faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose.
Pour répondre à la question, parce que je n'y ai pas répondu finalement, moi je suis assez fier de moi sur certains trucs, mais il y a des choses où je veux faire mieux l'année prochaine.
Je te rejoins un peu, je pense, là-dessus. Et bon, moi, la fin de l'année me fait chier parce que du coup, tout le monde s'arrête de bosser. Donc, évidemment, vous me connaissez. Pendant trois semaines, tu envoies plus d'emails, tu respectes les gens, machin, t'envoies plus des SMS quand tu veux.
Tu respectes les gens, tu te rends compte, Manuel, ce qu'on est devenu ? On doit respecter les gens. On est dans une société où il faut respecter les gens.
Mmh. Non, mais j'y pense encore plus à ce moment-là parce que c'est vrai que les gens ont besoin à Noël et tout ça. Bon, je comprends.
Tout le monde, toi le premier. Hein.
Oui. Mais.
Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote que personne ne connaît. Parce que Romain, il nous fait « Moi, je travaille à l'heure que je veux, les gens, ils ont qu'à gérer leur horaire comme ils veulent, etc. » Donc Romain, quand il est à Paris,
le masque tombe.
Il m'envoie des SMS à 5h du matin, parce qu'il est en train de travailler sur un truc, et donc il a une question, il m'envoie une question, etc. Mm. Et ben là, quand il est à New York, je peux dire que j'envoie mes SMS à des horaires bien pour le faire chier.
C'est la raison, ce connard.
Bien pour le faire chier.
Quand, le problème avec Manuel, c'est que si t'as une insomnie à New York et que tu as le malheur d'ouvrir ton téléphone, tu es sûr de ne jamais te rendormir.
Et là, je me dis, tiens, prends ça dans ta gueule, tiens.
C'est tellement vrai, putain. Non, mais c'est vrai que...
Pourquoi t'ignores pas juste le message? C'est une question comme ça, parce que moi, c'est ce
j'y
que
arrive
ferais,
pas, hein. Parce qu'en fait, ça me sollicite dans le sens où j'ai envie, du coup, de me dire, ah putain, il se passe un truc.
Putain, c'est fou, j'arrive vraiment bien à ignorer ces messages, moi.
Ouais.
Bah, même à 15h, hein.
Ouais.
Mais pour raconter les dessous, c'est vrai que Manuel a fait ça, mais je sais qu'au fond il est vachement plus respectueux que moi là-dessus. Je sais que Manuel, c'est un truc, il prend vachement plus en considération. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité que Manuel adorerait, et on va y répondre après parce qu'on a une question là-dessus, c'est le fait de programmer ses SMS. Alors que contrairement à moi qui s'en bat les couilles,
j'attends cette fonctionnalité avec impatience.
Donc Manuel a quand même un vrai respect de la personne à qui il parle, de quand est-ce qu'il lui parle, etc.
Tu peux le faire avec Shortcut, hein, mais
c'est pas du respect, parce qu'on sait très bien que le 1er janvier il va programmer tous ses messages d'anniversaire pour pas se faire chier le reste
d'anniversaire.
D'anniversaire, oui.
Je suis pas né le 1er janvier. T'es pas né le 1er janvier.
Bonne année, non?
Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est que si le 1er janvier, tu vas te poser à ton bureau, tu vas dire, bon, allez, ils me font chier avec leurs anniversaires qu'il faut souhaiter, etc. Je vais programmer, hop là, Léo, le 3 juillet, 8h30. Félicitations, bon anniversaire.
C'est pas vrai. Ose dire que tes messages d'anniversaire, quand je t'envoie un message d'anniversaire, ne sont pas contextualisés.
C'est vrai qu'ils sont, contextualisés. Je vois pas trop. Oui,
faut
peut-être.
Juste bien te connaître.
Peut-être. Mais en fait, moi, ça me...
Peut-être. Putain, ça vaut la peine.
Ça me... si, ils sont contextualisés de fou. Moi, ça me dérange pas. Enfin, je sais pas, quand quelqu'un m'envoie un message et que je suis pas dispo, juste je réponds pas.
Ça, c'est en général, ils vont chercher la réponse ailleurs. J'ai une petite idée d'où c'est.
Ben oui, mais du coup, c'est pas grave. Moi, je peux envoyer un message à n'importe quelle heure. Si t'as pas envie de me répondre sur le moment, tu me réponds pas sur le moment.
C'est vrai. Mais toi, t'envoies jamais de message.
Bah, ça m'arrive, mais je considère pas que la personne doit absolument me répondre au moment où elle me lit. Enfin,
non,
on a tous des vies, en fait.
C'est vrai. Ce que tu dis est tout à fait juste. Après, dans le business, des fois, il y a des trucs. C'est maintenant, c'est pas dans une heure, c'est pas dans deux jours.
Mais ça dépend du caractère, je pense. Oui, mais.
Enfin, t'envoies un message pour me dire que tu vas m'appeler et que c'est urgent. Et après, tu m'appelles.
Bah, c'est ce que je fais, Léo.
Oui, c'est vrai.
Souvent, même si c'est très urgent, je t'appelle direct.
Moi, c'est ce qui me fait rire, c'est les trucs en one-to-one quand ça doit aller très vite et qu'en 3 minutes, il y a l'un sur LinkedIn, l'autre qui vérifie des mails et que t'as vraiment un truc que tu... Enfin, moi, c'est ça qui me plaît dans mon caractère. C'est du on-off très rapide.
Mais pour revenir à la question dont on s'est beaucoup éloigné,
êtes-vous fier?
Cette va être très très longue.
Mais ils vont adorer, je sais qu'ils vont passer un moment, bah, c'est fait pour en même temps être écouté à Noël, peut-être que ça sera un podcast plus long.
Je pense que c'est important d'avoir des milestones et des moments où tu te poses des questions et tu prends un tout petit peu de recul sur ce que tu fais. Mais je pense que si tu attends la fin d'année pour le faire, t'es quand même dans la merde. Ça veut dire que t'as cramé 4 trimestres ouais. avant de te poser cette question. Donc, je pense qu'il faut trouver sa temporalité. Nous, dans notre business chez Influx, c'est plutôt au quarter, mais dans à d'autres échelles, il y a des, par exemple les créateurs, la majorité des créateurs, je les vois toutes les semaines.
Ouais.
Parce que leur rythme de business à eux, c'est plutôt hebdo, quoi.
Ouais.
S'il y a des trucs à ajuster, il faut les ajuster assez rapidement pour que tu dévies pas trop, en fait, comme l'âne.
Ce que j'aime bien, c'est que tu reviens sur la question, mais c'était pas la question. La question, c'était est-ce qu'on est fier de nous. Il y avait pas du tout.
J'ai ignoré la partie qui m'intéressait pas.
De milestone. Mais c'est ça, moi, que je trouve trop difficile dans le fait de faire un bilan par an, c'est qu'en fait, je me souviens pas ce que j'ai fait en janvier.
Moi, je m'en souviens.
Ah ouais. Tu faisais quoi?
Non, de ce que toi tu faisais en janvier.
Ah, mais c'est pire. Ça me fait très peur. Non, mais c'est un bilan de fin d'année. Pour moi, tu reprends tous tes bilans de l'année à la limite.
Moi,
j'ai tout à fait à chaque trimestre.
Je l'ai un peu plus parce que New York, de mon côté, donc j'ai pris un appart à New York depuis juin. Et ça m'a déclenché l'impatience un peu d'être à l'année prochaine parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait assez. Ou j'ai presque eu un manque de légitimité de me dire merde, depuis juin, machin, t'es à New York, mais le temps que ça se mette en place, que tu rencontres les gens, que tu saches à quelle connexion, tu vois, quoi faire, etc. J'ai presque là, moi, le sentiment de me dire bon, ok, tout ça, j'ai presque l'impression que c'est comme. C'est un entraînement. Donc je suis impatient d'être à l'année prochaine. C'est la première année que ça me le fait vraiment de me dire bon, à partir de janvier, ça va être différent parce que là, c'est mis en place, j'ai plus d'excuses, quoi.
Tu vois. Mais là, Manuel te dira qu'est-ce que ça va changer d'être en janvier 2024 et pas en décembre 2023.
C'est juste que ça fait une coupure entre les deux. Parce oui, que non, là, je reviens voir ma famille à Monaco, etc. Tu vois, il se passe pas mal de choses.
Ah bon, tu travailles pas?
Non, je travaille pas. Tu te rends compte?
Putain, c'est un mythe, en fait. Tu fous de notre gueule, je crois. Hein.
Manuel,
oui.
Est-ce que tu as observé des choses cette année dans notre industrie de la
chaussettes
de la créateur
des choses, cette année.
Est-ce que tu as observé des choses cette année dans notre industrie de la créateur économie et comment ça influence les stratégies de Influx pour 2024? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en 2023 où tu te dis bon là il va falloir qu'Influx soit très bon en 2024?
Intéressant.
Oui, plein. J'écrirai d'ailleurs un article LinkedIn sur la question. Comme je veux pas le saboter, bah vous irez voir mon article quand il sera écrit.
D'ailleurs, on répondra à toutes les questions de cette FAQ dans un autre podcast.
Merci beaucoup. En tout cas, j'étais super content de vous avoir là. À bientôt.
Mais si je peux citer un truc, c'est que en Europe, alors que ça a eu lieu dans d'autres zones du monde, je pense que des marques en 2024 vont choisir des créateurs de contenu qui viennent du web comme égérie dans leur communication classique.
Intéressant.
Ok. On enlève le côté personnalité publique ou uniquement cinéma, télé, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que les créateurs de contenu deviennent des personnalités comme les autres. Et je pense que des marques, il y a déjà des indices. Hein. Ils ont essayé des trucs, ils ont fait des petites campagnes, ils ont lancé des produits, etc. Mais je pense que ça va se généraliser et que des marques vont choisir comme incarnant dans certaines géographies des créateurs de contenu qui sont particulièrement puissants dans ces géographies-là et qui ont le mérite d'apporter un peu autre chose que de l'image, mais aussi de l'activation.
Okay. Merci pour la transition, puisque du coup, je suis fier d'annoncer que je suis égérie Noroto à partir de 2024.
très bien. Remplacer Villebrequin, c'est ça?
Exactement.
On n'est pas dans la merde. Au-delà de ça, est-ce que d'un point de vue format, d'un point de vue éditorial et réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a Thread qui est arrivé là, ça y est, en Europe, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez plus travailler l'année prochaine?
Instagram. Moi, je vais essayer de booster Instagram parce que je l'ai un petit peu fait cette année et ça a très bien marché. C'est un format qui a beaucoup plu aux gens. Le problème, c'est que j'ai tellement de YouTube que j'ai pas eu le temps de le faire plus que ça, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup.
J'adore, on entend l'ours en fond.
Je grogne. Pourquoi tu... tellement de YouTube, oh, ça va.
Bah 19 vidéos.
Oui bah ça va, t'es pas Michou, tu vas pas te plaindre non plus.
Bah quand même, excuse-moi, c'est beaucoup. Disons que c'est un peu plus qu'il y a de moi dans une année.
Oui.
J'ai fait combien de vidéos l'année dernière?
10, 12.
L'année dernière?
11.
Oui, c'est vrai.
Voilà, 8 de plus.
Bah c'est bien.
Je te suis complètement par contre sur Instagram. Ouais. C'est une plateforme
c'est
que
c'est vrai, vous me suivez, j'ai vu.
Oui c'est vrai, il me suit mais complètement.
Ouais, il y a des
parce
gens.
Qu'il a un compte secondaire. Et il me suit avec les deux. Ouais. N'hésitez pas à aller sur le compte secondaire de Romain qui est @ManuelDiaz.
Ah, arrête. Suivez-moi sur Threads. Je dis que des trucs qui n'ont aucun intérêt,
vrai,
mais qui sont très drôles.
C'est très drôle. manuel sur Thread, c'est un peu plus manuel comme on le connaît nous dans la vraie vie.
Et il a pas de vêtements.
Arrête. Oh.
Et Léo, du coup, quelle est la techno que tu vois émerger et que tu attends le plus à partir de 2024?
L'Apple Vision Pro qui devrait sortir en janvier, février aux États-Unis, qui est le casque de réalité mixte et plus de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle d'Apple, qui est le futur de l'informatique, le futur des expériences sensorielles, le futur d'énormément de choses, peut-être même le futur de la communication. Ça va être absolument exceptionnel. Ce qui est génial, c'est que comme d'habitude, j'aurai du travail jusqu'à la fin de mes jours, puisque les gens ne voient pas encore à quel point ça va être exceptionnel. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette évolution-là.
Bon, à partir de mars, normalement 2024, de ce que j'avais vu aux US.
J'ai vu janvier-février, moi, aux dernières nouvelles.
Là, encore
dans
récemment
dans tous les cas, ouais, je l'ai vu aujourd'hui. Dans tous les cas,
je serai day one, de toute façon, à l'Apple Store à New York pour l'acheter, c'est sûr, et le rapporter très vite. Hein.
Peut-être que tu le testeras avant, Léo.
Peut-être que je le testerai avant, mais faut se dépêcher, là, quand même, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Donc ça, c'est vraiment le produit que t'attends?
Bah oui, mais
c'est pour même, communiquer c'est... dessus ou pour travailler avec?
Je crois qu'il y a pas un nouveau lave-vaisselle aussi, mais ça n'a rien à voir.
Pour tout, c'est pour tout. J'attends ce produit comme des gens pouvaient attendre l'iPhone.
Ok.
Ça va, je suis convaincu que ça va être extraordinaire.
Toi, il y a une techno manuelle que tu attends vraiment pour 2024?
Écoute, si on pouvait inventer un vaccin anti-con, sincèrement, ça fait un petit moment que j'attends.
Ils l'ont annoncé, l'Institut Pasteur.
Ouais. Non, Vision Pro évidemment, mais bon, je pense qu'on est très nombreux à l'attendre. Je n'attends absolument rien de chez Samsung. Attends, laisse-moi réfléchir.
Juste pour le plaisir de le préciser. Attends, dis toutes les marques avec lesquelles on a eu un désaccord. Tu m'as dit.
Je n'ai aucun désaccord. Ah. C'est juste que je pense que. Par contre, pour les lave-vaisselles et les lave-linges, c'est sûrement très bien. Non, Vision Pro, Vision okay. Pro évidemment.
Léo, et toi, Romain, l'air. Si tu dis Humane et iPin, je t'envoie le micro.
Ah, bon, en tout cas, je l'ai précommandé.
C'est ce que t'allais dire.
Bah, je suis curieux de
voir
comment.
Allez, voilà, c'est bon.
Non mais
on
fait vous expliquer
podcast.
Deux secondes. Donc, il y a la société Humane qui a annoncé le produit AIPin, qui est comme un.
Comme son nom l'indique, voilà. Une bouse.
Un pin, c'est un assistant vocal avec une intelligence artificielle qui est intégrée, qui fait que tout ce que tu fais sur ton téléphone, tu vas pouvoir le faire en conversant avec cet assistant vocal qui sera... conversant. Ça se dit pas ?
Non, c'est pas... Mais comment tu le présentes là ? Je comprends pas.
Ben, c'est un truc que tu clips.
Ah,
que
d'accord,
ça soit,
d'accord. Tu veux dire que c'est une sorte de petit téléphone sans écran que
exactement.
Tu clips à ta chemise, genre.
Exactement.
Qui a une caméra, donc qui peut voir du contexte autour
c'est
de
ça.
Toi et à qui tu peux parler. Okay,
ce dont je suis curieux, c'est de voir si ça pourrait réduire drastiquement le temps passé sur les réseaux sociaux depuis ton smartphone, du moment où tu peux correctement répondre à tes appels, voir l'heure avec un petit faisceau laser qui est intégré dans le produit, donc tu mets
ça
ta main de...
pue la merde.
D'accord.
Ça va encore nous arranger le flow des geeks.
Moi j'adore, mais c'est là où j'ai le côté geek qui revient, tu vois.
Le l'hologramme, ça pue la merde.
J'adore.
C'est hyper nul.
C'est la cata. C'est la cata.
Non, moi j'étais hypé par ce projet au début.
Ok.
Et plus ils en montrent,
ouais.
Moins je le suis.
Ok.
Je suis plus hypé maintenant par les Ray-Ban Meta.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air... Oui.
Les lunettes ouais. Avec une caméra à l'intérieur et un petit peu d'IA, et un peu d'IA dedans, que par les iPin que je trouve assez inutiles.
Je voulais te poser la question tout à l'heure, Léo, sur le sujet de la créateur économie. Est-ce que toi, il y a des choses dans ton métier que t'aimerais voir arriver en 2024 d'un point de vue business avec les marques, etc. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, putain, c'est fou, les marques, elles ne l'ont pas encore compris aujourd'hui et nous, on est prêts et on a envie de le faire en 2024?
Un peu plus chez les créateurs. J'aimerais bien qu'on mette fin à cette mode de vouloir en permanence dédramatiser ses propres placements de produits en faisant de l'humour sur chacun de ses sponsors, en prenant une espèce de seconde voie. C'est un nouveau créateur qui débarque d'un coup et qui veut absolument faire des vannes, etc. Qui fait que du coup, souvent, ça rend le sponsor peu crédible. Je ne trouve pas que ça serve la marque. Je ne trouve pas que ce soit très agréable à regarder. C'est vraiment histoire de dire, bon, bah, dans tous les cas, j'ai besoin de thunes, donc je fais un petit peu passer la pilule. J'aimerais bien que ce truc disparaisse parce que faire des sponsors sur YouTube, c'est pas sale. Il faut se prendre au sérieux. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux pour tout le monde. Ça crédibilisera tout le monde. Ça crédibilisera notre métier. Donc j'aimerais bien voir ce truc arrêter un petit peu.
Je suis d'accord.
Trop bien.
Et qu'on arrête de faire des grosses prods qui se prennent pour la télé.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, ça dépend du kiff des créateurs et de ce qu'ils ont
envie
de faire.
C'est très bien de faire des grosses prods, mais on n'est pas obligé d'essayer de singer la télé, parce que la culture Internet, elle a le droit d'exister à part entière et elle n'est pas obligée de singer la télé.
Je regardais la dernière interview qu'a donnée Casey Neistat. J'ai plus le nom du youtubeur avec qui il l'a fait, mais c'était méga intéressant. Il parlait de son point de vue sur MrBeast, donc le plus gros créateur aujourd'hui de contenu qui fait des prods où il faut toujours en rajouter plus. Et il comparait la qualité de prod et le travail de MrBeast avec ce qu'il déclenchait d'un point de vue mode sur YouTube. Et il dit, bah, MrBeast, en fait, c'est super, c'est honorable, c'est remarquable, c'est un philanthrope, il redonne, il fait plein de choses. Sauf que ça a déclenché dans YouTube la course à celui qui fera le plus de conneries, le truc le plus gros, le truc le plus cliquable, etc. Et on l'a vu, il y a encore des YouTubeurs, un YouTubeur américain là, qui achète une bagnole à $1 million et qui doit la ruiner en moins de 15 minutes dans un champ. Ça sert à rien. C'est juste pour faire du clic et de la vue. Et t'avais ce truc-là où moi, j'espère juste... C'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne en revenant à des choses qui me touchent vraiment et je m'en branle si on fait 40-50 000 vues au lieu de faire 300 000. C'est vrai que c'est très personnel, mais je me dis, tu vois, à l'époque, faire des top 10 à 5€, bah oui, tu touches plus de monde parce que tu touches un peu n'importe qui, mais finalement, essayer de revenir à des contenus plus niche aussi et un peu, moi, le YouTube où tu vas sur la barre de recherche et tu cherches un sujet qui t'intéresse et tu veux t'intéresser et t'instruire, ça me manque un peu.
Ah, moi, pas du tout. Moi, je suis assez copain avec l'algorithme. J'aime bien ce système. J'aime bien le fait que ce soit difficile d'aller chercher les gens.
Okay.
Et j'aime bien surtout le fait que les gens découvrent complètement un contenu qu'ils n'ont pas cherché, auquel ils ne s'attendaient pas et qui sort complètement de leur bulle. Parce que quand tu cherches du contenu, c'est très pratique, mais tu ne sors pas de ta bulle. Tu ne vois que des choses que tu as cherchées, que tu sais déjà, que tu aimes, etc. Donc non, moi, j'aime bien ce procédé algorithmique qui consiste à te présenter, te montrer des trucs auxquels tu t'attends pas et tu découvres plein de choses différentes.
J'ai toujours su que t'étais fait pour TikTok.
Alors non, parce que bon, TikTok, faut lire les commentaires, mais d'ailleurs j'ai une vidéo sur TikTok, n'hésitez pas à aller la voir.
Pensez-vous du coup qu'il est plus simple d'entreprendre aujourd'hui, malgré la forte concurrence, versus il y a 20 ans, de ce que cette personne nous dit, lors des débuts d'Internet où la concurrence était plus faible? Moi je suis pas d'accord, juste sur le fait que la concurrence était plus faible ou autre, c'était différent. Pour moi, aujourd'hui, on peut être aussi...
C'est juste que le KPI concurrence n'est pas un bon KPI.
Ouais, enfin, ouais, ok.
C'est juste ça. S'il n'y a pas de concurrence, là où il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché.
Donc, vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui ou pas?
Je pense que c'est plus difficile, ne serait-ce que pour le contexte économique. Maintenant, c'est plus simple parce que tu as plus d'outils et tu as accès à plus de ressources.
Il y a 25 ans, on se place, on va dire, 96-97.
Belle année.
Il y a Internet n'est pas un support crédible. Le Minitel n'est pas totalement mort. Tu as encore des ersatz de CD-ROM. C'est compliqué. Donc là, la question, elle est posée au prisme de la concurrence. Donc elle est posée avec un contexte actuel. C'est dommage parce qu'il y avait d'autres difficultés que cette personne a complètement oublié de citer. Et créer de la valeur économique dans un secteur qui est réputé comme étant pas un secteur sérieux, c'était pas simple non plus. Donc peut-être il y avait moins de concurrence, mais le secteur n'avait aucune forme de crédibilité.
Ouais.
Donc c'était pas simple.
Tu devais faire ce travail en plus.
Donc tu faisais de la pédagogie, c'était assez complexe.
Aujourd'hui,
oui, il y a plus de concurrence. Je soupçonne que derrière cette question, ça soit en fait la question de comment émerger. Comment émerger dans un secteur très concurrentiel. Mais on a déjà traité un peu de ce sujet dans d'autres épisodes. N'aie pas peur de la concurrence. La concurrence, c'est très bien, c'est très sain pour un marché. Et tu n'as pas besoin d'être un acteur ultra dominant pour avoir une économie qui fonctionne. Choisis une niche, choisis un positionnement. Enfin, il y a plein de façons d'exister dans un secteur. C'est pas parce qu'on fabrique énormément de vêtements sur la planète que Chanel ne peut pas exister. Et pourtant, il y a beaucoup de concurrence sur le secteur de la mode. Ils n'ont pas les plus grandes parts de marché. Et pourtant, ils ont un très beau compte de résultats. Donc, ce raisonnement est pas bon.
Ne serait-ce que pour l'apprentissage. T'imagines, il y a 20 ans, je ne sais pas à quoi ça ressemblait d'apprendre à coder. mais ça devait être un enfer. Aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à devenir développeur, c'est quand même beaucoup plus simple parce que tu as tellement de ressources en ligne, tu as tellement aussi de formations, que c'est quand même beaucoup plus facile et tu vas apprendre beaucoup plus vite. Et en plus de ça, comme le dit Manuel, il y a 20 ans, une fois que tu avais appris à coder, bah maintenant, il fallait convaincre les gens
Exactement.
Que ça pouvait leur être utile. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus simple aujourd'hui.
Je rappelle que pendant plus de 10 ans, on nous a opposé le nombre de Français connectés à Internet en disant, bah, de toute façon, ok, c'est peut-être super, ok, ça fait peut-être des trucs géniaux, etc. Mais il n'y a pas assez de gens connectés à Internet pour que ce soit une cible qui m'intéresse.
Ouais.
C'est incroyable, ok.
Alors que maintenant, il y a quelques-uns.
Il y en a deux, trois. Ouais.
Ah, l'Internet, il est partout, l'Internet. Moi, j'entends toute la journée, l'Internet.
Et c'est quoi votre avis, du coup, sur les personnalités publiques qui se revendiquent entrepreneurs?
J'en fous. J'ai pas d'avis.
Je trouvais ça intéressant comme question parce que je pense que derrière ça, comment est-ce que je fais la différence entre une personne qui peut vraiment m'apprendre quelque chose aujourd'hui, qui a une vraie formation à me proposer et une vraie valeur ajoutée, avec tous les entrepreneurs de TikTok qui font genre de pas parler dans la caméra et qui te racontent...
Pour moi, c'est comme...
Ah, les entrepreneurs de Wish.
Ouais, voilà, exactement.
Pour moi, c'est comme influenceur. Tu ne peux pas déterminer la qualité d'une personne avec ce genre de terme. Un influenceur, moi je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je sais pas à partir de combien de temps, de combien d'abonnés on est considéré influenceur. Quelqu'un qui me dit bonjour, je suis influenceur, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais plutôt discuter avec cette personne et je vais voir si vraiment c'est quelqu'un d'intéressant, s'il a quelque chose à m'apporter. Je pense que c'est pareil pour un entrepreneur. Tu t'en fous qu'il se présente d'entrepreneur ou je sais pas quel adjectif pour se qualifier. Ce qui compte, c'est la discussion que tu vas avoir avec lui.
C'est surtout ça. Je connais des tonnes de gens qui ont fait des professions libérales ou des artisans qui ne se qualifient pas comme entrepreneurs au sens où on l'entend aujourd'hui à la mode, où il faut absolument lever des fonds, blablabli, blablabla, et qui sont beaucoup plus entreprenants que des tonnes de gens qui en parlent. En fait, il y a dans l'entrepreneuriat, tu as quand même un écosystème de gens qui parlent de l'entrepreneuriat plus qu'ils ne l'ont fait vraiment, et tu as beaucoup de gens qui l'ont fait et qui parlent peu et qui sont peu visibles. Et j'ai quand même le sentiment qu'il y a une mise en scène de l'entrepreneuriat au-delà des entrepreneurs eux-mêmes qui ont fait des trucs. Moi, j'aime bien passer, ne serait-ce qu'au prisme d'un seul critère, tous les gens qui parlent d'entrepreneuriat, c'est combien tu as créé d'emplois.
T'as combien d'employés?
T'as créé combien d'emplois?
Ouais.
Tu as rendu millionnaire combien de tes associés? Ces deux questions-là, elles suffisent déjà à bien tamiser le game.
Ça a été des longues discussions avec toi au début parce que moi je faisais l'amalgame là-dessus. Moi je me considérais comme entrepreneur. Alors que, en fait, moi, peu importe le chiffre d'affaires que je fais, ce que je regarde c'est ma marge. C'est le fait que j'ai très peu d'humains autour de moi parce que je ne sais pas gérer les humains et j'aime pas gérer les humains. Et j'ai des super personnes en freelance quand j'ai besoin pour certains projets. Et j'ai aucun problème pour le dire. Et d'ailleurs, souvent, on me dit « Oui, mais t'es entrepreneur, etc. » Je dis « Mais je suis créateur. Enfin, j'ai personne en CDI dans ma boîte. Donc, à partir de là, je peux pas te dire que j'entreprends quoi que ce soit. » Mais on a l'impression d'avoir... Je le vois pas du tout aux US, hein, pour le coup. Je vous le dis tout de suite. On sent pas les couilles de savoir « T'es entrepreneur, machin. » Non, aux US, on te dit « Qu'est-ce que tu fais ?»
Bah, parce que t'es forcément entrepreneur aux US.
Bah, il te demande qu'est-ce que tu fais.
Bah, le concept de CDI, je pense qu'il est assez loin.
Complètement. Moi, on m'a dit, c'est quoi tes derniers projets? On m'a pas demandé qui j'étais ou autre. On m'a dit, ah, ok, t'as travaillé sur quoi le mois dernier? Bah, j'ai fait une vidéo, machin, puis après, j'ai investi dans ça, et puis j'ai fait ça. Et...
Après, c'est pas comme si en France, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te dit, mais t'es entrepreneur, toi, ou pas?
Non, c'est pas ça. Mais on a envie de te mettre dans une case. Je ressens beaucoup plus le fait de, bah, soit t'es youtubeur, soit t'es... entrepreneur CEO d'une boîte, mais t'es pas les... Tu vois ce que j'ai l'impression qu'on doit te mettre quand même plus dans une case. Y a pas du tout ce mindset là.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et d'ailleurs, on m'a posé la question de qu'est-ce qui m'inspire dans cette nouvelle vie à New York et est-ce que ça a influencé mon contenu? mon contenu, peut-être que ça l'a influencé indirectement, parce que je me suis dit qu'il y avait quand même des choses à partager et que je continue de prévoir.
Ton poids, par contre.
Mon poids, non, il n'avait pas trop bougé.
T'es chiant, Léo, j'allais faire la vanne.
J'adore, elle était parfaite.
T'as été plus rapide.
Mais par contre, il y a un truc qui, je pense, peu importe qui tu es, ça doit forcément te toucher, c'est que vu le nombre de personnes que tu vois juste en marchant dans la rue et en voyant les proportions énormes avec les buildings, la taille de n'importe quel produit, etc., bah, toutes tes ambitions sont naturellement plus élevées, où tu vas réfléchir avec plus du tout la même échelle.
Tu te sens tout petit face au building.
Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a des trucs où, quand je pense à un sujet, bah, peut-être qu'à Monaco, je me serais dit on fait ça et ça sera déjà super. Alors que quand t'es à New York, tu te dis il n'y a pas déjà 10 épisodes, ça sert à rien d'y penser. Tu vois ce que je veux dire ?
Évidemment, t'as un pays qui fait 300 mètres carrés, à peine.
À Monaco, la marche est courte, hein, donc t'as pas le temps de te dire grand-chose.
Ouais. Bah, si tu décides de faire du footing, tu changes de pays.
New York a un effet très, très galvanisant que j'aime beaucoup aussi. Marcher dans New York, j'ai l'impression d'être dans une pub Apple, c'est incroyable.
C'est incroyable. On va parler de thunes.
Ah, oui. Oh putain, merde. Ah d'ailleurs, quand est-ce qu'on est payé ?
Pour quelle raison ?
C'est une vraie question, ça, pour le podcast.
Ah oui ? T'es payé, toi ?
Bah du coup, non.
Bah voilà.
Mais toi, oui ?
Non.
Je crois qu'il n'y a que Romain qui est payé. Hein.
Ouais, c'est... Comme habitué de vous le dire.
C'est pour ça qu'il est à New York, à mon avis. Hein. Il n'est pas entrepreneur, mais il se fout de notre gueule, quand même.
Ça servira au moins à ça, la fin d'année, tu vois. À faire un débrief.
Ah, on va être payé ?
Ouais.
Ah, comme ça, après, on arrête le podcast.
Si vous deviez investir 1000 balles aujourd'hui dans un produit... Crypto, bourse, droit musical,
Vision Pro,
machin, etc.
Question suivante.
Non. Je pense qu'il a... Enfin, j'ai beaucoup ces questions-là dans mes canaux. C'est souvent des jeunes qui ont mis un peu d'argent de côté avec des boulots d'été, etc. Et qui me disent...
Ils sont tous
mes canaux. Mes canaux, j'ai pas compris mes canaux.
Les canaux.
Ah,
de
avec
réseau,
tes canaux. Réseau, ok, ça y est, je viens de comprendre. Okay.
C'est fatigant.
Ok.
Putain. Donc, en synthèse, si on se met... à leur place et qu'on pouvait se donner un conseil quand on avait mis 1000 balles de côté, on les aurait investis dans quoi ?
Bah déjà, si t'as que 1000 balles, c'est que ton mime marche peu. Même si t'es moche, vends tes pieds. Tu peux faire mieux.
Alors, ça, je l'aurais pas forcément appliqué, moi.
Ensuite...
Pour donner un vrai conseil.
Bah quoi, c'est pas faux.
Non.
Et on est en plein lancement de Threads. À part des gens à poil, tu vois quoi dans Threads ?
J'y suis pas allé, moi.
Les communautés se constituent pas toujours sur les bonnes bases.
Pour donner un vrai conseil, si j'étais à votre place...
Attends, Léo va donner un conseil en investissement, j'écoute religieusement.
Si j'étais à votre place, je n'écouterais pas mes conseils.
Ah, on est donc d'accord, ça démarre bien.
Parce que les 1000 euros, moi je les donne à Manuel et après il me tabasse. C'est comme ça que ça se passe chez Influx, voilà. Donc à votre place, j'écouterais pas mes conseils financiers.
Moi j'ai une réponse qui n'aurait jamais été celle-ci il y a de ça, même pas 3 ans, et je pense que Manuel pourra en témoigner. C'est qu'il y a de ça 3-4 ans, je t'aurais dit alors 1000 euros,
j'achète une jante. J'achète une jante, je le mets sur la bagnole.
Non, mais tu vois, j'aurais voulu penser au gain immédiat de l'argent. Aujourd'hui, je te jure, le meilleur conseil, tu veux vraiment claquer 1000 balles et te dire, tu sais quoi, je vais les risquer, peut-être que je les perdrai, t'achètes que des livres. Que des livres pour apprendre des choses dans le secteur qui t'anime, entreprendre des choses, etc. Pour 1000 apprendre.
Balles en livres, mais tu travailles pas si tu lis 1000
balles. Mais une
fois
que tu les auras lues, tes 1000 balles de livres, tu vas pouvoir peut-être faire des millions plutôt que de croire à 1000 euros investis que tu pourrais perdre en allant jouer au casino. Et ça, vraiment, c'est un truc, si je l'avais compris plus tôt...
C'est trop long, c'est putain. Trop long. 1000 balles, c'est beau, c'est trop de livres.
Bah, tu rigoles, des bons livres, c'est quoi ? C'est 20 euros, 20-30 euros ? Ouais, bah, tu vas lire pendant 3 ans, ça veut juste dire que c'est 1000 euros. Tu vas continuer d'étudier ce sur quoi tu aimes travailler. Pendant 3 ans, tu vas lire un livre par mois. Et ben, je t'assure qu'au bout de 3 ans, tu ressors de là, t'as pas la même tête. Hein.
Moi, j'ai une autre réponse.
Vas-y.
Pour un tiers de ton capital, ce qui est une règle à peu près, hein,
c'est vrai.
Je dirais, à fin de nez, puisque j'ai pas encore tout à fait décidé.
Un tiers de ton cash flow.
C'est ton capital de départ.
Oui.
Ok.
Oui.
Je pense qu'il y aura un produit pédagogique en début d'année qui va pouvoir t'aider beaucoup et te faire faire les bons choix.
Bon teasing.
Mais on en reparle.
Est-ce que c'est mieux que d'acheter des livres ?
Bah c'est moins cher parce que je consomme qu'un tiers de ton capital de départ.
Mais tu peux peut-être l'acheter 3 fois.
Ouais, si tu l'as acheté, tu peux regarder autant de fois que tu veux. Mais après, tu peux en offrir à d'autres personnes. Si
ok.
Non, par contre, 1000 balles, je pense, pour faire une réponse plus consistante, au-delà de celle-ci qui est juste, hein, 1000 balles, c'est un peu faible. Moi, je garderai encore cet argent pour le capitaliser un petit peu plus. À partir de 5-6 000, je vais donner un conseil.
Qui n'est pas un conseil en investissement.
Je ne vous dis pas de le suivre.
À partir d'un million.
Parce que, Flex, on va
en
parler.
Fait, j'ai bien réfléchi, 5-6 000, c'est pas assez.
Ouais, allez, 8. Admettons 8.
8 000
Ouais.
Allez, on s'arrête là.
Achète un sac Hermès.
Voilà, allez, hop.
Non, mais en même temps, il a pas tort. Si t'arrives à l'avoir, il a pas tort.
Le plus dur, c'est de l'avoir.
Voilà, c'est ça.
Tu voulais pas garder le livre, toi, plutôt.
Tu comprendras que ben, pour l'avoir, il faut comprendre certaines choses sur ton niveau d'information, ton niveau de relationnel avec les personnes, etc. Comprendre les êtres humains pour correctement échanger avec ton entourage et peut-être avoir un sac Hermès.
J'aime pas ce conseil parce que il est déjà appliqué par beaucoup de gens qui ne font que lire et qui s'arrêtent à ça. Ah. Si tu veux comprendre comment les gens communiquent et comment ils marchent, tu lis How to Win Friends et tu t'arrêtes là. Et maintenant, tu travailles.
Rien d'autre.
Non, tu lis que ça. Si tu veux comprendre comment les gens marchent, le livre Comment se faire des amis, il est suffisant.
C'est vrai.
T'as pas besoin d'un autre livre. C'est le problème de vouloir beaucoup, beaucoup investir dans les livres, c'est que tu vas passer ton temps à lire et à ne pas appliquer ce que tu lis.
Oui, parce que j'oublie ma partie, fin, parce que moi, quand je lis, je mets en application même sans avoir fini le livre. C'est d'ailleurs un drame parfois, mais au moins,
et toi,
je
t'as appliqué
vite,
avant de lire.
Oui.
Il y a plein de gens qui lisent énormément de livres,
ouais.
Mais qui en font jamais rien.
Ok.
Ouais.
Parce que...
Ça s'appelle des profs.
Elle est incroyable.
Parce que le simple fait de lire les déresponsabilise du reste. Ils se disent, bon, bah, je suis en train de lire, je suis en train d'avancer, de progresser, je suis en train de travailler quelque part. Et ça, il faut faire très attention.
Est-ce que c'est possible de passer d'un profil followership à leadership? Je trouvais cette question, je sais pas, on n'y avait pas répondu, je pense, je sais pas.
Bah, ça dépend quand tu te poses la question, mais à un moment, ça traduit quand même une certaine nature. Mais je pense qu'il n'est jamais bon de lutter contre sa nature.
Donc tu es follower et tu veux devenir leader, c'est ça?
Ouais. Il y en a qui sont animés par le fait de savoir sur quel projet ils doivent travailler, quelle deadline ils doivent donner, à quel projet ils appartiennent. Il y en a d'autres qui aiment écrire l'histoire de ce projet-là.
Mais je pense que c'est assez évident, tu le sais. Hein.
Bah pour moi aussi.
Au fond de toi, tu sais.
Bah ouais.
Ouais.
Après, tu es peut-être attiré par certains éléments du leadership.
L'argent.
Mais
Je suis pas d'accord. T'as des followers de leader. Wozniak, pour moi, c'est un follower de Steve Jobs.
Ouais.
Et bah, il a quand même beaucoup, beaucoup gagné d'argent.
Bah, moins que Jobs, je pense. Hein. Et il faut quand même fonder Apple.
Ça va, il n'est pas, ouais. Pas à plein de noms.
Il faut quand même fonder Apple, c'est le cofondateur d'Apple, c'est pas non plus.
Mais il y a deux facteurs différenciants. Le premier, c'est qu'il est vivant. Bon. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il a un Android, le pauvre.
C'est vrai.
Comme quoi, des fois, vaut mieux mourir.
Non, mais oui, il faut faire attention. À ses biais, mais je pense que la question ne se pose pas. Tu sais si tu es plutôt un suiveur ou un leader, c'est dans ta nature.
Je pense que la réponse, tu l'as. Après, des fois, tu es attiré par des trucs. Tu te dis, voilà, tiens, c'est le mythe du leader. Je ne vois pas tous les aspects qui vont avec. C'est-à-dire le doute, la solitude, enfin, tout un tas d'éléments. Et il vaut mieux être un très, très bon follower qu'un mauvais leader.
Ouais.
Et moi, je pense surtout qu'en fonction de ta profession... Tu peux faire les deux pour tester. Tu peux continuer ton travail que tu exécutes avec un patron, une hiérarchie classique, etc. Et te dire, bah, tiens, je vais me donner des deadlines, je vais me donner ce projet-là sur lequel j'ai envie de travailler et je vais déjà essayer pendant un mois de respecter mes propres deadlines sans que personne ne me demande rien.
Bah, fais-le avec ton entraînement de sport ou tes tâches ménagères et on verra si tu arrives à le tenir.
Voilà. Déjà là, tu as déjà, je pense, pas mal d'éliminés. Tous les trois, surtout un... à passer beaucoup plus de temps à travailler pour des marques prestigieuses, on a la question de comment gérer la pression quand on travaille pour des clients prestigieux.
Ouais, tu m'avais dit que c'était dur, Manuel, pour Jackie et Michel.
Ouais, j'ai pas travaillé pour eux.
Moi, je peux répondre juste un truc.
Quand il dit ça, faut dire non.
Fais-toi plaisir.
Faut dire non, Manuel.
Bah, c'est que déjà, si tu différencies la qualité de ton travail en fonction de tes clients, déjà, tu pars mal. Si tu te dis, ah lui, ça va, il s'appelle pas Dior, alors on va lui faire ça vite fait parce que non, ferme ta gueule. T'as dit oui au devis, tu lui as envoyé le devis, il a signé, bah, tu vas travailler comme d'habitude.
Ah, mais là, il y a un biais dans ce que tu dis parce que c'est pas forcément ce que ça veut dire. C'est peut-être juste que tu travailles très correctement pour les clients, on va dire neutres,
ouais.
Et que tu mets une petite poussée supplémentaire quand tu sais qu'un client est très prestigieux et que t'as envie de le garder. Ça veut pas dire que tu travailles mal pour l'autre.
Ouais, je comprends. T'en penses quoi, toi, Manuel ?
Moi, j'en pense que c'est jamais la marque le sujet. Le sujet, c'est l'enjeu. C'est le problème qu'on te pose. Et des fois, tu as des très grosses marques très prestigieuses qui te proposent des projets de merde qui sont pas du tout intéressants. Et donc, le sujet, c'est bien choisir ses enjeux. C'est est-ce que la problématique est la bonne ? Est-ce que le brief est intéressant ? Est-ce que quand j'aurai fait mon boulot, il y aura un avant et un après pour cette marque-là ? Effectivement, on a travaillé avec mes équipes pour beaucoup de marques très prestigieuses, pour les plus belles marques du monde à travers les années. On n'a jamais pris tous les sujets dans ces marques-là. On a fait le tri.
Ils vous l'ont jamais reproché ?
Certains le prenaient pas bien, mais on a toujours arbitré les projets qu'on prenait et ceux qu'on prenait pas. Il y a des projets qui n'ont aucun intérêt. Et même s'il y a un logo magnifique dessus, sincèrement, tu sais que tu vas te faire chier, que les équipes vont s'emmerder, qu'il va pas y avoir d'enjeu pour eux. Donc du coup, tu te crées des problèmes de management, parce que c'est peut-être rémunérateur, mais ça motive pas tes équipes. Mmh. Et si tu veux des gens de bon niveau, il faut les stimuler intellectuellement. Donc il faut leur poser des vrais problèmes. Sinon, tu as que des gens qui sont là pour abattre le taf et être dans une espèce de confort. Et c'est surtout pas ce que tu veux. Donc en fait, il vaut mieux sélectionner par les enjeux que par les marques. Après, il se trouve que beaucoup de grosses marques ont des enjeux plus importants ou plus complexes que de toutes petites marques.
Ouais.
C'est pas toujours vrai. Mais cette équation existe, en tout cas. Avec le temps et en fonction de la nature des équipes que tu as et du profil psychologique de tes équipes et donc de ton recrutement, tu castes des clients qui correspondent à la nature de tes équipes. Et c'est ça qui crée une espèce de traction dans ta boîte. Ce qui est dramatique dans une boîte, c'est l'espèce de dichotomie entre tes équipes, ton travail RH et de recrutement et tes clients. Si tu as des super devs, etc., mais que tu leur demandes de faire des trucs vraiment bateaux, tu vas les perdre. Et tu vas donc passer beaucoup de temps à régler des problèmes d'insatisfaction de tes équipes, à les perdre, à restaffer, à reformer. Et c'est pour ça que c'est très important de disqualifier des clients et des projets de certains clients. Parce que moi, je leur disais souvent, vous proposez ce budget pour ce projet, la réalité, c'est que c'est pas du tout assez. Tu rigoles, Manuel, c'est pas dur à faire. En plus, on sait que vous allez le faire facilement, etc. Ouais, mais ça va me coûter tant de personnes. Parce que les mecs qui vont bosser sur ton truc, là, ils vont déprimer tellement c'est naze. Ça les excite pas intellectuellement. Donc le coût pour faire ton projet... Il est pas du tout couvert par ton budget parce que tu vas me mettre en péril intellectuellement ou en dépression des gens.
C'est ouf. Mais oui, c'est là où tu vois le management. Quoi.
Le management devrait être ça.
Okay.
C'est pas le chiffre d'affaires à tout prix. C'est le bon chiffre d'affaires.
Moi, c'est le chiffre d'affaires à tout prix. Essentiellement. Voilà.
T'as le souvenir, Manuel, d'un super bel enjeu sur lequel vous aviez travaillé ? Que tu pourrais citer ? Il y a vraiment un truc où tu te dis, putain, si je dois en retenir un, celui-là, il était quand même excitant.
Faire élire un président de la République ?
Oui, c'est pas mal.
Ça, c'est ouf. Et du coup, dans tout ça...
Au moins, le KPI est assez clair.
Parfait. Du coup, dans tout ça, avec ces enjeux, c'est quoi les astuces qu'on peut donner pour que nos agendas ne dégueulent pas dès le 1er janvier 2024 ?
Donc quoi ?
Nos agendas.
C'est dur, hein.
Nos emplois du temps. Tu peux dire emploi du temps.
Ouais,
il y a moins de pièges pour toi dans emploi du temps.
Ok. J'ai pas écouté la question du coup. J'ai entendu que
tu gères comment ton agenda ?
Oh putain.
C'est à lui que tu demandes.
Ouais.
C'est Manuel qui le fait. Il m'envoie un doc.
Merci Léo. Manuel,
avec
comment
écrit mon agenda.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme.
Mon agenda.
Je sais même pas le dire comme lui.
Mon agenda.
Agenda, je sais pas comment il dit.
Agenda.
Ouais.
Pense à Jeanne d'Arc.
Ah oui.
Agenda.
Ouais. Bah, elle voulait descendre.
Ah.
Bah, elle en a eu. faut être pragmatique. Hein. C'est des trucs qu'on dit souvent. C'est soyez pragmatique sur la nature de vos enjeux, ne soyez pas surréaliste sur la quantité d'objectifs, regardez la méthode des OKR, c'est un truc très, très intéressant, très documenté sur Internet, très pratiqué par Google à une période de sa vie, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je pense que oui. Donc fixer des objectifs, mais c'est super de fixer des objectifs, mais il faut fixer les indicateurs de mesure de ces objectifs, sinon tu sais jamais si tu les as atteints totalement, partiellement, et voilà, jusqu'à quelle hauteur, etc. Voilà, si on dézoome à fond et qu'on regarde vraiment les grands, grands objectifs sur une année, si tu en atteins 3 à 4 dans une année, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que tu as franchement un très bon rythme de travail. Et après, évidemment, derrière 3-4 grands objectifs, il y en a des dizaines de plus petits qu'il faut mener dans un certain ordre, avec une certaine orchestration qu'on appelle une stratégie, pour que l'objectif plus global soit lui-même déloqué. Mais je pense qu'il faut commencer par ne pas s'en fixer des caisses, en fait. Se dire, OK, quand je passe au tamis toutes les idées que j'ai, est-ce que je peux, comme Léo le fait dans son processus d'écriture et il en a parlé dans ses contenus, un peu avec une mind map, tu vois, les regrouper dans des grandes branches et essayer d'en avoir 3-4 sur une année max. Et déjà 3-4, t'es un bon performeur.
Pour répondre plus sérieusement, moi j'ai pas besoin...
Ah, parce que c'était pas sérieux ça.
Non, que ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon. Pour répondre plus sérieusement, j'ai pas besoin d'agenda parce que je fais sensiblement la même chose en permanence. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, donc je n'ai pas besoin de mettre dans mon agenda aujourd'hui je dois écrire. Donc j'ai simplement ma to-do list du jour, et tous les jours j'ai des créneaux de travail profond qui sont pour le coup eux dans mon agenda, mais du coup il n'est pas très complexe à tenir.
De mon point de vue, je pense que ce qui handicape le plus la majorité, c'est les sollicitations externes que les gens ne prennent pas le temps de rentrer dans leur agenda. Donc en fait, vous allez voir que c'est quand même assez facile d'appliquer les conseils que tu donnes, Manuel. Tu prends tes objectifs, tu te mets des slots dans ton agenda, etc. Sauf que tu as ton copain qui te contacte pour te voir demain soir, et puis tu as finalement une machine que tu dois passer voir, puis ça, tu dois le faire chez toi. Et en fait, tout ça, ça vient polluer tes objectifs fixés chaque jour. Donc moi, j'ai une astuce que j'applique depuis maintenant un petit peu de temps, c'est de prendre 24 heures avant de répondre oui ou non, pour voir les personnes qui me proposent des soirées, 15 minutes de meeting, machin. Parce que sur le moment, tu te dis, bah, je réponds à ce mail, allez, vas-y, ça va vite, ou je réponds à ce SMS, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis en fait, si tu prends 24 heures, bah, le lendemain matin, tu te réveilles, tu vois le truc, tu fais, en même temps, qu'est-ce qu'on va se raconter ? Bon, écoute, non, ça va être compliqué, je ne vais pas prendre le temps cette semaine, machin, à bientôt, j'espère que tu vas bien, machin. Et quand vous allez vous enlever toutes ces sollicitations externes, alors vous pourrez beaucoup plus facilement appliquer ce qui se passe réellement dans votre agenda, quoi.
Oui, puis réécouter l'épisode où on parlait d'apprendre à dire non,
exactement,
etc.
Alors, exactement.
Alors, avec des 24 heures, ça, elle est propre à chacun. Ouais. Moi, je dis non vite.
Mais quand on ne sait pas dire non, ça aide.
J'attends 15 jours, moi.
Bon, en général, l'événement est passé, Léo.
Ah, mais bon anniversaire.
Si je peux donner un conseil, même si vous n'utilisez pas d'agenda et que, comme moi, vous n'avez pas grand-chose à mettre dedans, c'est quand même de mettre des créneaux de temps libre. Parce qu'on pense. Non, mais c'est vrai.
T'as un agenda.
Il n'est pas rempli du tout.
J'essaye d'imaginer le truc. Il n'y a rien dedans, que des temps libres.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours à mettre des créneaux quand on a impérativement quelque chose à faire.
C'est vrai.
Mais du coup, tu le remplis énormément. Si tu te mets des créneaux de temps libre où tu dis, bah là, en fait, le vendredi de 19h à 23h, j'ai pas envie qu'on me propose quoi que ce soit, et bah mets-toi un petit créneau de temps libre, comme ça, tu es sûr que tu vas pas le remplir avec autre chose.
En ce moment, je fais un truc différent. Je mets carrément cette journée-là, je suis occupé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et cette journée, je la prends pour moi. Il se trouve que je bosse pendant cette journée. Mais je sais que j'aurai aucun appel. Toutes les personnes dans mon organisation et autres sauront que je suis occupé. Ils pensent que je suis soit en mode off, etc. Et en fait, non. Je vais pouvoir juste prendre le temps de lire sans avoir de SMS, sans avoir de mail, de trucs. Donc parfois, je le fais. Ça m'aide vachement.
Il faut beaucoup visualiser le truc sous la forme d'un flux. Il y a des moments où tu prends de l'income, donc c'est beaucoup de la data qui vient du monde extérieur vers toi, et à un moment si cette data ne repart pas sous la forme d'un outcome, et que t'as même pas le temps de faire l'outcome de l'income, ça sert à rien en fait. Donc il faut réguler les sollicitations extérieures de façon à ce que ton outcome soit régulier et tienne ta stratégie et tes propres objectifs. À partir du moment où les sollicitations extérieures commence à perturber ton rythme d'avancer sur tes objectifs, etc., alors il faut les réduire. C'est un peu comme les perturbateurs endocriniens.
Puis là, tu le dis, je pense à la parfaite période de l'année, parce qu'en fin d'année, tu boucles un peu les choses sur lesquelles tu n'as pas pu terminer de faire, enfin, ce que tu n'as pas pu terminer de faire avant. Tu vas voir plutôt tes proches, etc. Donc, tu évites les sollicitations externes non désirées. Et en début d'année, tout le monde va t'envoyer le message de début d'année. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Bah, tiens, vous vous êtes fixé quoi comme objectif, machin.
Donc, j'ai une astuce là-dessus.
Ah,
c'est-à-dire, là, les gens vont s'arrêter.
Ah, je sais, si il la raconte chaque année.
Ils vont se réunir à Noël, blablabla. Bla, bla, bla. Close ta semaine en te disant que tu vas mourir.
Ah, on s'attendait pas à ça, tu vois.
Non, je m'attendais pas à ça, je m'attendais au coup des emails.
Non.
Que très peu de personnes savent faire.
Mais close ton année comme ça. Okay. Moi, je le fais à chaque fois que je me déplace, que je pars en vacances, ouais, en déplacement, etc., etc. Je me dis, ok, est-ce que tous les sujets que j'avais en cours, ils sont propres? Ils ont été délégués, il y a quelqu'un de briefé dessus, etc., etc. Et je close le truc en me disant, bon, ok, si je reviens pas, ça continue.
Et donc, pour les emails, Manuel, en général, quand tu reviens de vacances,
oui,
tu fais contrôle A, supprimer,
voilà,
et tu te dis...
Voilà, POM A, supprimer.
Oui, bah, il a quand même plus de 70 ans, donc il faut dire POM A.
C'est vrai.
J'aime pas contrôle, c'est un truc pris au PC, ça me fait mal.
Et bah, pour parler d'Apple, il manque quoi l'iPhone, les gars?
D'ailleurs, c'est commande A.
Oui, c'est vrai, c'est commande, c'est
mais
pas contrôle.
Avant, il y avait POM. Il y avait le petit logo POM dessus, c'était plus joli.
Oui, et jadis.
Il est juste un temps.
Il manque quoi l'iPhone? C'est une question pour Léo, ça.
Il manque de l'IA à l'iPhone, et c'est à peu près tout.
Ok.
Voilà, de l'IA intégrée à l'OS. Après, évidemment, il y aura des choses qui vont arriver et ce sera très intéressant, mais ça ne veut pas dire que ça comble un manque. Pour l'instant, ce qui me manque, moi, personnellement, c'est vraiment de l'IA.
Moi, ce qui m'a bluffé, là, sur le 15 Pro Max, c'est la stabilisation, la photo et la vidéo. Enfin, c'est la première fois de ma vie.
C'était déjà pas mal. Hein.
Ouais, mais là, vraiment, je ne culpabilise plus du tout de filmer en log uniquement avec mon iPhone à la main. Parfois, je me surprends même à ne même pas mettre de micro externe, alors que je suis en pleine rue à New York avec les sirènes, etc. Et en fait, tu as une liberté de création. Donc, non, honnêtement, là, le produit, pour moi, est vraiment top. Et je te rejoins, Léo. Je pense que AI Pin de Human, peut-être, va bouger les choses. Parce qu'on va se dire, en fait, un assistant.
Mais qu'est-ce que tu veux? Mais ChatGPT va bouger les choses, pas AI Pin.
Mais Sam, celui. Pardon, j'ai Sam perdu son. Voilà, Sam Altman, qui un jour sur deux n'est plus CEO de OpenAI, a déclaré pour Human que c'était pour lui l'un des produits qui pourrait mettre au service du grand public la technologie de l'intelligence artificielle, sans aller sur un site web, etc. Donc il travaille main dans la main avec ChatGPT. Exactement.
Bah, il a bien fait de dire ça, du coup.
Bon. On termine sur les lectures de l'année, si ça donne des idées. On les mettra dans la description.
Alors, j'ai pas lu grand-chose, moi. En fait, j'ai pas... je pense que j'ai lu des trucs, mais en début d'année. Parce qu'après ça, en fait, je me suis fait harceler par mon agent. Et depuis...
Ça fait que de l'exécution.
Et
c'est
depuis,
faux.
J'ai fait que lire des trucs en rapport avec mes vidéos, en fait.
Okay.
Donc j'ai lu des trucs sur le revenu universel, j'ai lu des trucs sur
tous les sujets
dont
tu as parlé,
sur tous les sujets de ma chaîne, en fait.
Manuel,
c'est moi.
T'as des livres que t'as lu cette année à recommander?
Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, mais on en parlera dans un prochain épisode, donc je veux pas déflorer le sujet.
Tintin au Tibet.
Pas du tout. Et sinon, cette année, je suis plus revenu sur des classiques, en fait, la littérature classique.
Ok.
Voilà.
Genre, Schopenhauer?
Bon, c'est pas... Oui, enfin, c'est très bien, mais... Non, des vrais classiques, j'avais envie de relire...
Ah. Genre 1984, des trucs dans ce genre-là.
Genre Camus, Céline...
Ok.
Voilà. Lisez Houellebecq. C'est à la fois drôle et en même temps intéressant.
Ok.
Bah moi, j'en ai deux cette année. Il y en a un, j'ai voulu lire le premier livre qu'avait lu Warren Buffett.
Oh putain.
Et qui est vraiment cool. Qui s'appelle...
Putain, il avait dit aucun nom d'entrepreneur.
1000 ways to make $100. D'accord.
Si, moi, j'ai compris.
Et ben, voilà.
1000 ways.
1000 façons de faire $1000.
Ok.
Ça, c'est très cool. Et ensuite, il y a Arnold Schwarzenegger qui a sorti le livre, qui est vraiment chouette. Seven Tools for Life.
Grand cool. philosophe.
Non, mais qui t'explique vraiment, pour le coup, de façon très brute de décoffrage, toutes ces différentes vies et qui t'explique tout ce qu'il a pu apprendre dans ces différentes vies-là que tu pourrais mettre à profit pour être un homme meilleur.
Ok.
C'est pas mal.
Pour moi, Arnold Schwarzenegger, c'est un peu comme si Thibaut InShape devenait maire de Toulouse.
Ce qui pourrait être possible.
C'est pas impossible, hein.
C'est mal parti, quand même.
C'est la veine du bibi, c'est tout ça, quoi.
On vous souhaite ce que vous voulez.
Eh ben, c'était pas mal, ces questions, en vrai. Qu'est-ce qu'on a pensé, Manuel?
À part la première, vraiment,
les gens sont meilleurs à force d'écouter le podcast. Je pense que c'est ça. Faudrait faire une étude là-dessus, quand même, sur l'impact du podcast sur les gens.
Vivement l'année prochaine.
C'était le dernier épisode. Merci à tous. Et on vous souhaite de nous retrouver sur nos réseaux respectifs parce que nous, on se sépare.
À l'année prochaine.
Salut!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.